Amen. Gloire à Dieu. Entendre la voix du bon berger, entendre la voix de Dieu. Comme nous venons de le chanter, quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. C'est là ce que Jésus-Christ veut nous dire encore ce soir, c'est là ce que Dieu veut nous faire voir, c'est là ce qu'il veut nous faire entendre, oui, qu'il a payé pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons libérés. Je suis Jésus que tu persécutes. Nous trouvons cette parole de Jésus dans Actes chapitre 9. Et j'aimerais qu'on lise ce passage ensemble. Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Amen. Aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce passage et que l'on s'intéresse à la conversion de Saul. Ce changement radical, cette transformation qu'il y a eu dans son cœur, cette rencontre. Saul a rencontré Jésus. Saul de Tarse a rencontré Jésus. Et c'est là pour chacun d'entre nous l'expérience que Dieu veut que nous fassions, que nous puissions le rencontrer, lui, véritablement, que nous puissions être en relation, en communion avec lui, que nous puissions nous retrouver devant lui. C'est là ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais donc vous parler de Saul, simplement vous donner un petit peu le contexte, sa situation, le contexte de sa vie, de ce qu'il a pu faire. Saul est né dans une famille juive importante, distinguée, influente. Ce n'était pas n'importe qui, il n'est pas né dans une famille quelconque. Il a été versé dans la religion et la culture juive dès son plus jeune âge. Il fut étudiant à Jérusalem auprès d'un célèbre rabbin nommé Gamaliel. Je dis cela, c'est des détails importants qui vous permettront de comprendre par la suite le message. Et dans cette voie qu'il suivait, pensant être la bonne, dans cette religion qu'il avait, il était brillant, il était doué, il était bouillant, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. C'est lui-même qui le dira, il était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Saul, sa destinée, elle était simple, elle était toute tracée. Il se destinait à une carrière de religieux professionnel de très haut niveau. Voilà sa carrière professionnelle, si on peut dire. Saul avait son avenir comme cela de tracé. Sa religion, c'était sa vie. C'était ce qui prenait toute la place dans son cœur. C'est ce qui lui donnait un sens. Saul était bouillant, passionné. Il avait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Il pourra dire de lui-même qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi qu'avait donnée Dieu au peuple d'Israël, cette loi juive, la loi mosaïque, cette loi qui comportait beaucoup de commandements qu'ils ont détaillés par la suite et qui ont trouvé encore beaucoup de commandements à respecter. Paul a pu dire, voilà, j'étais irréprochable. Il était zélé pour tout ce qu'il faisait concernant la religion. Et peut-être que dans votre vie, il y a comme cela un zèle. Peut-être pas pour la religion, peut-être pas pour Dieu. On peut être zélé pour beaucoup de choses de nos jours, pour plein d'autres choses. On peut être zélé pour les études, on peut être zélé dans le travail. Il peut y avoir des choses comme ça qui nous passionnent, qui prennent notre vie, tout notre cœur, qui remplissent tout notre cœur, qui donnent un certain sens à notre vie. Et Paul, c'était sa passion, sa religion, c'était voilà, il pensait être dans la bonne voie, c'était sa passion. Il était zélé pour cela, il était à fond. Mais il n'était pas en relation avec Dieu. Il y avait un grand paradoxe dans la vie de Paul, c'est que dans la vie de Saul, excusez-moi si je fais des, si je j'appelle Saul Paul, Paul Saul, c'est la même personne. Paul avait deux nationalités, je vous le dis, comme ça vous m'excuserez si je me trompe, mais je voulais être clair en utilisant que son prénom, en disant que Saul, mais je pense que j'y arriverai pas. On a l'habitude de l'appeler Paul. Et c'est pas compliqué, Paul était juif, mais il avait la nationalité romaine. Il s'appelait dès le début Saul et Paul, c'était courant pour les juifs qui étaient comme cela, déportés. Il était voilà, de Tarse. La Bible nous dit, c'était pas un changement quand il s'est converti, son prénom. Ça n'a aucun rapport. Par la suite, il s'est fait appeler Paul et il a aimé, on voit dans la parole de Dieu ce prénom, parce qu'il a une signification importante. On voit qu'il signifie ce prénom petit. Et pour lui, dans son changement par la suite, c'est comme cela qu'il aimait se considérer. Mais voilà, c'était une petite aparté. Paul était passionné. Et c'est comme cela qu'on peut le caractériser vraiment. C'est son trait de caractère que l'on retrouve et que l'on voit le plus. Autant quand il ne connaissait pas Dieu, pourtant quand il était dans la religion, mais autant après, quand il va rencontrer Jésus, il aura toujours ce zèle qui va le pousser à vraiment servir Dieu avec passion. Mais en tout cas, là, avant de rencontrer Jésus, il avait ce zèle, mais pour des traditions, pour des choses mauvaises, ce qu'il ne fallait pas. Et il est important de réaliser cela, qu'il y a un zèle que nous pouvons avoir qui peut prendre notre cœur, mais qui nous éloigne de Dieu. Et Dieu veut nous parler. Dieu, ce soir, veut vraiment se révéler à nos cœurs. Ce qu'il veut, ce n'est pas que nous ayons une religion. Il veut pas que nous soyons zélés pour une religion. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons entièrement à lui, que nous lui appartenions, que nous soyons véritablement en relation avec lui. Parce que nous pouvons être zélés pour une religion, mais être très loin de Dieu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Voilà la parole qu'il a pu entendre. Saul haïssait tous ceux qui s'engageaient à suivre Jésus. Il les haïssait. Il ne pouvait les supporter. Il n'était pas question de trouver un compromis, de les laisser faire dans leur coin. Il ne pouvait les supporter et il était prêt à tout. On le voit dès le premier verset. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait la menace et le meurtre. Il y avait ce zèle dans le cœur de Paul. Il y avait ce zèle, il le dira par la suite, qu'il avait pour zèle, il était persécuteur de l'Église. Il était persécuteur de l'Église. Il apportait son suffrage. Il apportait son approbation quand on mettait à mort des chrétiens. Il mettait des chrétiens en prison. Il allait les chercher pour les arrêter. C'était ce qu'il partait faire dans ce chapitre que nous avons lu. C'était ce qu'il partait faire à Damas. Il haïssait les chrétiens. Il méprisait Jésus. Pour lui, Jésus était un imposteur. Pour lui, Jésus, il était quelqu'un qui méritait la mort, quelqu'un qui l'avait dérangé, quelqu'un qu'il ne fallait pas entendre et écouter. Mais Jésus va se présenter à lui. Jésus va se révéler à lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a prouvé, comme je le disais, certains meurtres de chrétiens, et dont le meurtre d'Étienne, ce premier martyr chrétien. Le premier martyr chrétien fut Étienne, et Saul était là. Saul a vu l'exécution d'Étienne et a apporté son approbation. Et dans ce contexte, pour terminer cette présentation de Paul, de Saul, il y a une parole que il aurait dû écouter. Saul a laissé passer une parole, pourtant une parole qui ne venait pas de n'importe qui venait de ce rabbin Gamaliel dont je vous ai parlé, ce rabbin qui a pu l'enseigner. Cette parole que l'on retrouve dans Actes chapitre 5. Et on voit cette parole importante. Gamaliel n'était pas n'importe qui, il avait aussi une position importante, il était un responsable important voilà, dans la religion juive, il était un pharisien, docteur de la loi, il nous est dit. Et on voit au verset 34, il se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Il est question de Pierre et Jean qui venaient d'être arrêtés. C'était les apôtres de Jésus, ils venaient d'être arrêtés, ils avaient été mis en prison, arrêtés justement parce qu'ils parlaient de Jésus, parce qu'ils témoignaient à la foule, et ils venaient d'être comme cela arrêtés par le Sanhédrin, la justice religieuse de l'époque. Et alors le Sanhédrin va leur demander de sortir, et Gamaliel va leur demander de sortir, puis il dit, vous Israélites, au verset 35, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Et au verset 39, il nous est dit, à la fin du verset 38, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Prenez garde, il nous est dit, prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Et d'autres versions disent, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Paul a laissé passer cette parole. Paul n'a pas écouté et a pris ce grand risque, ce risque dangereux. A pris ce risque de combattre, de continuer à combattre les chrétiens, à combattre cette voie qui venait de s'ouvrir, comme il nous est dit dans ce passage, cette nouvelle voie, cette nouvelle doctrine dans certaines versions. Il a continué de combattre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et vous allez me dire peut-être qu'il y a une grande différence entre ce que Saul a vécu et ce que nous voyons dans ce passage et ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. C'est certain, on ne vit plus du tout les mêmes choses. Certainement que vous n'avez pas commis de meurtre, à prouver le meurtre de certains chrétiens. Peut-être que vous n'avez jeté personne en prison comme Saul a pu le faire. Mais néanmoins, la Bible nous dit et nous parle que nous pouvons être ennemis de Dieu. être contre Dieu sans avoir fait tout cela. La Bible nous dit que quand on se rend ami du monde, on devient ennemi de Dieu. Jésus-Christ a dit, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et il est important de réaliser ces paroles. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas se dire, je crois en Dieu, ou peut-être qu'il existe, je ne sais pas, mais bon, je ne suis pas contre lui. Non, on ne peut pas être entre les deux. Soit on est avec Dieu, soit on est contre lui. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Le simple fait de mettre Jésus à la porte de notre vie, le simple fait de mettre Dieu à la porte de notre cœur, nous conduit à avoir cette attitude. Ce soir, ne courez pas le risque de continuer à combattre contre Dieu, de rester dans cette attitude. Jésus, dans sa grâce, dans son immense amour, veut parler à nos cœurs, comme il l'a fait pour Saul à ce moment-là. Il est celui qui est venu se révéler à lui. Jésus, dans sa grâce, est venu vers Paul. Dans cette lumière éblouissante, il s'est révélé à lui. Et cette lumière, il veut la faire jaillir aussi dans nos vies, dans nos cœurs. Il est celui qui veut nous éclairer. Il veut nous parler comme il l'a fait pour Paul. Ses paroles nous concernent encore aujourd'hui, elles sont très actuelles. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Jésus-Christ va venir à Saul sans aucun reproche, sans aucun reproche, mais rempli d'amour pour lui. Et va lui poser cette question premièrement, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Il va lui demander la raison de sa haine. Et Saul va répondre, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur, Jésus, va continuer en lui disant, « Sans aucun reproche, par une constatation, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. » Et va lui donner ce conseil rempli d'amour. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. On voit vraiment l'amour de Jésus-Christ pour Saul. Jésus-Christ n'aimait pas ce que faisait Saul. Jésus-Christ n'aimait pas seulement les personnes que persécutait Saul, les chrétiens. Jésus-Christ aimait Saul. Et Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ nous aime tous. Jésus-Christ a un amour pour chacun d'entre nous, un amour personnel, comme il a eu pour Saul. Il est venu à lui, il l'a appelé par son prénom et il nous connaît. Il sait tout de nous, il sait ce que nous faisons, exactement la position que nous avons devant lui. Et il est celui qui nous appelle par notre prénom. On voit cet amour sans reproche. Il y a cet amour qui est là, qui est véritable encore aujourd'hui. Et Jésus nous dit de la même manière qu'il a pu dire à Paul, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » D'autres versions disent, « Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Une autre version dit, « Il est dangereux de te rebiffer contre ta propre conscience. » Littéralement, ça signifie, « Il te serait difficile, pénible, de ruer comme le bœuf contre le bâton pointu par lequel son maître le fait avancer. » Vous savez, peut-être, je ne sais pas si ça vous parle, cette expression, se regimber contre les aiguillons. C'était une technique qu'il y avait à l'époque, qu'il y avait encore en France il n'y a pas si longtemps que ça. Les agriculteurs qui n'avaient pas de tracteur avaient des bœufs, et pour les diriger dans leur travail, eh bien, ils avaient des bâtons pointus. C'était tout simplement pour leur donner la direction à suivre. Quand ils s'en écartaient, eh bien, voilà, ils piquaient le bœuf. C'était ça l'aiguillon. Il te serait dur de te rebiffer contre l'aiguillon. Et Jésus disait simplement à Saul, il voulait simplement lui faire comprendre, c'est grave de ne pas obéir. Il est grave et dangereux de ne pas obéir. Il est contre ton intérêt, il est contre ton intérêt de me résister. Il est dangereux de te rebiffer contre ta propre conscience. Voilà ce que disait Jésus à Saul à ce moment-là. Et il est celui qui nous parle de la même manière, encore ce soir, afin que nous puissions réaliser. Tu te blesses toi-même, tu te blesses toi-même en te rebiffant. Il est celui qui veut nous aiguiller, il est celui qui veut nous diriger, il est celui qui veut nous conduire dans cette voie, dans la voie droite. Nous avons lu que Saul par la suite a été conduit dans la voie droite. À Damas, il a été conduit dans une rue qui s'appelle cette rue droite, la voie droite. Et Jésus est celui qui veut vraiment nous conduire dans cette voie droite. Il y a des aiguillons comme cela qui peuvent venir pour nous y conduire. Comme pour Paul, il y avait des aiguillons. Et on voit que par là, eh bien, il y avait des choses qui étaient là dans la vie de Paul, qui le travaillaient très certainement. Des choses qui travaillaient sa conscience. Mais il s'était toujours rebiffé contre ces aiguillons. Mais à ce moment-là, on le voit, il va céder. Il va dire, par la suite, « Je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté à la vision céleste » ou « Je n'ai point désobéi à la vision céleste ». Il va céder, il va accepter, il va reconnaître Jésus-Christ comme étant le Seigneur, comme étant celui qui a pleine autorité, comme étant celui à qui il nous faut nous soumettre et obéir. Oui, Jésus-Christ est celui qui, de la même manière, veut nous conduire dans cette voie. Une voie faite de bénédictions, une voie où l'on saisit, eh bien, la paix, le bonheur éternel. On l'a chanté. Une immense paix. C'est dans cette voie-là que l'on peut, et seulement dans cette voie-là que l'on peut être réellement épanoui, réellement libéré. Oui, c'est dans cette voie-là que l'on peut être réellement comblé, avoir un avenir fait d'espérance, des projets pour chacun d'entre nous. Dieu est celui qui veut nous conduire à cela. Mais avant, il veut vraiment que l'on puisse réaliser qui il est véritablement. Et c'est l'expérience qu'a fait Paul. Il y avait ces aiguillons qui étaient là dans sa vie, qui l'ont mené à cela. Et il y a des aiguillons dans notre vie. Il y a des aiguillons qui sont là pour nous conduire à Dieu. Et j'en ai noté trois. J'ai noté premièrement qu'il y a le témoignage des chrétiens. Ces aiguillons sont en rapport avec justement ce que Paul lui aussi a pu expérimenter. Le premier aiguillon, j'ai noté, c'est voilà, le témoignage des chrétiens. Très certainement que la conscience de Saul avait été travaillée en voyant les chrétiens, en voyant comment ils étaient quand ils les arrêtaient, comment ils étaient quand ils étaient persécutés, quand ils étaient amenés devant le Sanhédrin, quand ils étaient jugés, comment ils répondaient, leurs témoignages. Tout cela, ils l'avaient entendu. Ils l'avaient très certainement entendu parler de Jésus comme étant le Sauveur, comme étant le Libérateur, comme étant le Fils de Dieu, celui qui a tout accompli, qui a payé le prix, en entendant, en voyant ces chrétiens persécutés, en voyant comment ils acceptaient la souffrance, en les voyant mourir devant lui. Très certainement que cela a marqué la vie de Paul. Ces choses-là étaient comme des aiguillons dans sa vie pour le conduire justement à réaliser. Il y avait cet aiguillon justement dans le témoignage. Il y avait cet aiguillon particulier, celui d'Étienne, quand Paul a donné son approbation au meurtre d'Étienne. Ce n'était pas simplement pour lui un oui-dire, cette expérience. C'était vraiment ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Il a vu Étienne devant lui, il l'a entendu parler de Dieu, il l'a entendu, il l'a vu se faire lapider, il l'a entendu prier, il a entendu sa dernière prière et il l'a vu mourir devant lui. Oui, Étienne s'est fait lapider par ces hommes religieux. Et dans ce moment-là, ce passage se situe dans Actes 7, à partir du verset 55, on peut voir que Étienne, il nous est dit, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, alors qu'il se fait lapider, voilà ce que Étienne va voir, levant les yeux au ciel. Et il nous est dit au verset 59, « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Voilà ce que Saul a vu. Voilà ce qu'il a entendu. Cette parole qui a certainement marqué son cœur, cette voix forte qu'Étienne a fait retentir. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Cette voix qui est très similaire, qui est la même que Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ qui a payé le prix, et cette première parole qu'il a pu dire étant crucifié, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Cette parole a très certainement marqué la vie de Paul et était là comme un aiguillon qui devait le travailler. Il réalisait très certainement que les chrétiens étaient différents et qu'il y avait quelque chose d'inexplicable dans leur vie, quelque chose de surnaturel, quelque chose de divin. Et il y a dans nos vies cet aiguillon qui peut être là aussi. Peut-être que vous avez entendu le témoignage de chrétiens. Peut-être que vous vous en êtes moqué, peut-être que vous les avez pas écoutés. Mais peut-être qu'il y a des chrétiens qui vous entourent et qui vous ont parlé eux aussi de Jésus, de son amour à la croix, qui vous ont parlé des miracles qu'il a fait, de ce qu'il est encore capable aujourd'hui de faire. Cela est un aiguillon. C'est un aiguillon afin que l'on puisse venir justement vers Dieu, que l'on puisse l'accepter, que l'on puisse réaliser qui il est. Il y a cet aiguillon que Dieu, met comme cela dans nos vies. Et il est important de ne pas le négliger. Il est important de le réaliser. Il y a deuxièmement comme aiguillon notre conscience, la conscience. La conscience de Paul qui le travaillait. Cette conscience, la Bible nous parle que nous pouvons avoir une conscience qui peut être bonne ou mauvaise. On a tous une conscience, mais notre conscience, elle peut être vraiment très différente des uns des autres, surtout quand on voit notre monde aujourd'hui, quand on voit ce qui est accepté, ce qui est approuvé. On voit qu'il y a de très grandes différences dans ce que l'on peut approuver dans notre conscience. Et pourtant, la conscience est elle aussi un aiguillon afin de nous conduire. Et dans la vie de Saul, sa conscience était quelque chose qui le travaillait. Il ne l'avouait pas, c'était quelque chose qui camouflait bien. La conscience, très certainement, vous le savez, c'est quelque chose que l'on peut très facilement mettre de côté. Quand il y a quelque chose qui nous intéresse mais qu'on sait être mauvais, on peut être très doué pour mettre notre conscience de côté, ne pas l'écouter. Et c'est ce que Paul a pu faire pendant un temps de sa vie. Car il pouvait prétendre être irréprochable face à la loi, être sans faute sous le rapport de la justice. Mais il savait très bien que ses pensées, ses motifs, ses désirs n'étaient pas purs aux yeux de Dieu. Il a pu très bien décrire cette expérience par la suite d'un homme qui vit justement travaillé par sa conscience. Il a pu dire dans Romains chapitre 7 verset 19 « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Voilà l'expérience qu'a pu faire Paul à ce moment-là de sa vie quand il n'était sans Dieu. Voilà ce tiraillement qu'il y avait dans son cœur. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Cette expérience, très certainement, vous l'avez fait vous aussi comme moi. Soyons honnêtes. Il y a des choses que l'on aimerait faire et que l'on n'arrive pas à des, et en contrepartie, il y a le mal que l'on ne voudrait pas faire et on voit le mal être attaché à nous et on se voit tomber dans ces choses mauvaises. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et il est important de réaliser cela, cette conscience. Paul l'avait, il était tiraillé, il y avait ses pensées qui l'accusaient, ses pensées à des moments qui pouvaient le défendre. Mais il n'était pas au clair vis-à-vis de Dieu. Et il est important ce soir d'être sincère vis-à-vis de cela. Il est important de reconnaître que nous aussi, on a pu être un temps de notre vie comme cela. Je ne fais pas ce que je veux. Et si ce n'est pas moi, si ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul a pu le réaliser, a pu le reconnaître. Et c'est là ce qu'il nous faut ce soir, le reconnaître. Lui, le religieux extrémiste. Lui, Paul, cet homme qui était vraiment zélé face à la loi, qui était censé connaître Dieu, qui était censé être en relation, en communion avec lui, lui qui était censé être juste, qui se croyait juste durant toute cette période de sa vie. Il pensait faire ce qui est agréable à Dieu. Il pensait qu'il était juste, mais il a su admettre que le péché dominait dans sa vie, que le péché habitait en lui. Et il est important de réaliser cela ce soir, que nous ne sommes pas justes, que nous ne pouvons pas nous dire justes devant Dieu. Il est important de l'admettre, parce que c'est là ce qu'il nous permet justement d'avancer vers cette voie droite, vers cette voie qui mène à la vie éternelle avec Dieu, qui mène sur le chemin où justement on est agréable à Dieu, on est en communion avec lui. Et pour terminer, il y a cet aiguillon, si on peut dire cet aiguillon, parce que c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus extraordinaire, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux que Dieu a accompli pour chacun d'entre nous. La croix. Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. C'était là ce qu'il y avait de plus grand, c'est là ce qu'il y avait de plus grand qui a pu se passer dans la vie de Paul. Paul a très certainement pu, on ne sait pas, passer devant Jésus à la croix. C'était à la même époque. Jésus avait été crucifié peu de temps avant. En tout cas, il est certain que Paul en a entendu parler. Paul a entendu parler du message de l'Évangile. Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ crucifié, lui le saint, lui le juste. Crucifié pour les péchés de l'humanité entière, pour nous donner la vie. Très certainement, il l'a reçu, il l'a entendu ce témoignage. Et c'était là l'aiguillon le plus fort qui pouvait y avoir dans la vie de Paul. Très certainement que c'était ce qui pouvait camoufler, mettre de côté le plus, rejeter. Mais il ne pouvait pas le supprimer. C'était quelque chose qui était là. Et ce soir, Dieu veut nous parler, nous faire réaliser son œuvre à la croix pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus-Christ à la croix a payé le prix, il a donné sa vie. Jésus-Christ à la croix a tout accompli par amour pour chacun d'entre nous. C'est là ce qu'il y a de plus grand, c'est le plus grand signe, c'est sa plus grande preuve d'amour pour chacun d'entre nous afin de nous libérer. Jésus-Christ, Dieu fait homme, venu sur cette terre, humblement, marchant comme un simple homme, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, afin de donner sa vie, prendre sur lui notre condamnation, alors qu'il est saint, sans péché. Voilà ce que Jésus-Christ a accompli. Et il est important de le réaliser, voilà la vérité, voilà le message que Dieu veut encore que nous réalisions ce soir. Afin d'avancer, afin de rentrer en relation avec lui. Jésus-Christ est venu afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons lavés, purifiés, afin que nous puissions avoir, oui, une bonne conscience devant lui. Avoir une bonne conscience, c'est possible. Que ce poids de culpabilité dans nos cœurs soit enlevé, c'est possible. Grâce à Jésus-Christ à la croix, il est venu pour cela, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous soyons en paix avec lui, en règle avec lui. Et c'est là ce qu'il y a de plus grand. Et il est important de le saisir ce soir, de ne pas passer à côté. Que vas-tu faire? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur, difficile, mais non impossible. Dieu n'enlève jamais la liberté à l'homme. Tu as un choix. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire ce soir? Il y a ce message qui nous concerne, qui est là pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ, oui, s'est révélé. Et c'est vraiment révélé à Paul d'une manière particulière dans une vision. Paul l'a véritablement vu, il a vu ses mains percées, il l'a vu devant lui. Mais ce soir, il est celui qui veut nous faire entendre sa voix au travers de sa parole. Et c'est toujours autant actuel. Que vas-tu faire? Dieu a placé Saul devant un choix, devant le choix de sa vie, le choix décisif. Et ce soir, il y a un choix important, un choix à ne pas manquer, un choix vraiment vital, un choix décisif. il était face à ce choix. Il réalisait que ce Jésus crucifié, celui qu'il avait considéré comme un imposteur, était un Seigneur glorifié devant lui. Il voyait Jésus vivant devant lui. Et lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Que vas-tu faire ?» Vous savez, il y a des moments qui sont importants dans la vie, des moments que l'on ne retrouve pas par la suite. Et il y a des temps à ne pas manquer, il y a des choix à ne pas manquer, des choix qui sont importants, qui sont capitaux. Et ce soir, vraiment, je crois qu'il y a un choix capital à prendre, un choix pour certains d'entre nous, un choix qu'il ne faut pas manquer. On ne sait pas si cet appel se reproduira, pourra de nouveau se refaire par la suite. On ne sait pas ce que demain est fait. On ne sait pas s'il y aura une deuxième occasion de pouvoir répondre à cet appel. Et j'aimerais que vous puissiez saisir l'importance, l'urgence et la solennité de cet appel. Saul a pu saisir cela. Il n'a pas attendu deux appels. Il n'a pas attendu que Jésus l'appelle deux fois. Il a su saisir l'urgence. Il a su saisir qu'il fallait capituler, qu'il fallait admettre, qu'il fallait obéir, qu'il fallait suivre Jésus afin de saisir la vie, afin de saisir que, eh bien oui, on peut recevoir la vie en Dieu, afin de saisir qu'on peut être justifié seulement grâce à Jésus-Christ, être pardonné. Oui, c'est à ce moment-là qu'il a pu saisir ces choses-là. Il a été placé devant ce choix-là, et Dieu nous place devant ce choix ce soir. Que vas-tu faire ? La réponse de Saul a été, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et c'est là la réponse, c'est là ce qu'il y a de meilleur à répondre à Jésus. C'est là la meilleure réponse. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Non pas, Seigneur, que vas-tu faire pour moi ? Seigneur, que vas-tu me donner ? Seigneur, que va-t-il se passer ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Par la suite, Saul va perdre la vue pendant 3 jours. Il va être dans les ténèbres, mais pendant ces 3 jours, il va saisir véritablement que c'était réellement Jésus qu'il persécutait. Il va réaliser que c'était Dieu qui l'outrageait. Il va vraiment prendre cet engagement, oui, d'obéir, de se soumettre à la volonté de Dieu et de s'engager à être un serviteur de Jésus-Christ. Oui, il va se faire appeler par la suite Paul, serviteur de Jésus-Christ, ce qui veut dire en latin Paul, petit esclave de Jésus-Christ. Lui, celui qui avait persécuté Jésus, celui qui avait persécuté l'Église, les chrétiens, celui qui l'avait rejeté, va l'accepter, va saisir cette vie avec lui, va dire qu'il y a par la suite aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, va saisir cette vie faite de bénédiction, de paix, de joie, dans le service pour Dieu, va être zélé, oui, pour les bonnes œuvres, dans ces projets que Dieu avait particulièrement pour lui. Et Dieu a comme cela des projets pour chacun d'entre nous. Oui, il a vraiment des projets, un avenir. C'est ce que la Bible nous dit. Fait d'espérance, de paix, de bonheur. De paix, de bonheur. C'est là ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que vas-tu faire ? Je terminais là. Que vas-tu faire ? J'aimerais qu'on se recueille un instant. Qu'on puisse se tourner vers Dieu dans la prière. Tu l'as compris, il y a un choix à prendre, un choix important. Dieu est celui qui t'appelle, il t'appelle personnellement, il t'aime, il est celui qui veut te sauver. La Bible dit, oui, que celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, celui qui a Jésus dans son cœur a la vie éternelle. Dieu est celui qui veut te donner cette vie, Dieu est celui qui veut te donner cette assurance d'avoir la vie éternelle, Dieu est celui qui veut te conduire à chaque jour de ta vie, il est celui qui veut te conseiller, te diriger, être ton Seigneur et ton Maître. Et il n'y a pas à avoir peur de cela, car Dieu est celui qui veut notre bonheur, Jésus est celui qui veut notre bonheur, il est celui qui veut nous conduire dans cette vie faite de bénédictions. Et il est important de saisir cela maintenant, ce soir. Tu peux faire cette démarche, accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme étant ton Seigneur, ton Sauveur. Tu peux, oui, demander pardon, car c'est là ce que Dieu attend pour tous tes péchés. Te repentir sincèrement, réaliser que le péché a jusqu'à ce jour habité en toi. Mais Jésus-Christ est venu afin d'ôter le péché de nos vies, de nos cœurs, en mourant pour nous à la croix. Il a pris sur lui nos péchés, et il est celui qui veut nous laver, nous purifier. Ce soir, réalise cela. Oui, tu peux simplement venir à Jésus tel que tu es, lui dire « Je te demande pardon, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que veux-tu que je fasse ?» Tu peux faire cette prière dans ton cœur. J'aimerais appeler ce soir ceux qui veulent prendre une décision, ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Tu peux prendre cette décision sur ta chaise, mais tu peux aussi venir sur le devant et on peut prier pour toi. Dieu est celui qui veut vraiment se révéler à toi. Et il est important ce soir de réaliser qu'il est ce Seigneur de gloire, qu'il est Dieu. Et peut-être il veut te faire réaliser que tu es celui et qui le persécute. Non pas en tuant des chrétiens, en persécutant l'Église, mais en le mettant à la porte de ton cœur. Et il t'appelle. Ce soir, il y a un appel. Et il est important de le saisir. Alors si vous avez été touché dans votre cœur, simplement on va prendre un dernier chant. Et durant ce chant, prenez la liberté simplement de vous avancer sur le devant. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas honteux. On peut venir à Jésus tel qu'on est. Et l'Église le voit, l'Église le comprend, l'Église prie pour vous. On est passé par là. Et il est important d'avoir cette sincérité, de venir à Dieu, de venir à lui, d'oser faire ce pas de foi, d'avoir ce courage, oui, comme Saul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu est celui qui veut vous parler. Et tu peux venir simplement. Ce moment sera tout simple, mais prends cette décision. C'est là ce qu'il y a de plus important. Prends cette décision à suivre Jésus.